pas gain pour faiblesse pas le tout. Vraiment, chers amis auditeurs, pour la façon que yo est Haïti, et li gen même li fait li gen une sorte de négation de la contribution haïtienne à la République dominicaine. Et cette contribution est non seulement sur un plan historique et lors de la participation haïtienne à la guerre de la Restauration entre 1863 et 1865, c'est grâce à cette collaboration, cet appui et de Fab Geoffroy que la République dominicaine arrivait gagner et les troupes espagnoles mettaient au dehors et puis reconquérir l'indépendance. Certains intellectuels dominicains considèrent même et cette victoire des Dominicains sur les Espagnols comme la réelle indépendance, de la République dominicaine. C'est pas l'indépendance face à Haïti et en 1844, après les 22 ans de présence d'Haïti et sur le territoire dominicain, sur demande des Dominicains. Et une dans l'autre et faiblesse que document parti dominicain en guerre, c'est que il y aurait présence haïtienne non, comme une sorte d'action de type impérialiste, alors que cette présence a été demandée par Núñez de Cáceres pour te protéger face à l'Espagne. Donc, il n'est pas opportun pour nous deviner dans le débat à ça là même. Et donc, nous regrettons pile cette bruit de bottes et dans l'actuel contexte nazilien.
Alors, si nous avons parlé du groupe de Delta, c'est quand même une élite hein, des forces armées dominicaines.
Oui, non, en effet, c'est des penseurs, nous avons dit tout à l'heure, c'est une sorte de tech tank et d'anciens militaires et parmi les militaires, bon, alors il faut le dire, comme nous autres aussi en Haïti, donc il y a des militaires intellectuellement bien formés, des gens qui ont publié des livres jusqu'à présent là, et gagné tout récemment lors de cet événement culturel sur les livres que nous faisons chaque année en Haïti, Livre en folie, donc toujours gagné des anciens militaires et haïtiens qui publient des livres. Et du côté dominicain tout, gain des intellectuels bien rodés et c'est eux qui dans cercle Delta comme un groupe de réflexion sur la vie dominicaine, mais au plus penché sur les questions de sécurité nationale.
Et pas besoin d'oublier un ancien ambassadeur que j'ai gagné et le privilège dans une semaine de la diaspora, c'est moi-même qui t'ai ouvert l'audience là avec lui. Dans l'hôtel Caribé à Convention Center, c'est un ami d'Haïti et ami des grands intellectuels.
Oui, non, définitivement. Alors, il faut, pour être juste, il faut quand même dire que il y a deux anciens ambassadeurs dominicains qui ont des liens très très forts avec Haïti. Il y a Chico Despradel, très très connu dans le monde politique et haïtien, parce que Chico était très proche Peña Gomez et qui sont politiciens dominicains d'origine haïtienne qui mourit trois bonheur et qui pour très peu t'es arrivé à la présidence et bon nous changer cette campagne haineuse anti-haïtienne que le PLD le Parti de la Libération Dominicaine et sous l'égide de Leonel Fernandez s'était fait et contre Peña entre 1994 et 1996 pour empêcher que M. est arrivé à la présidence. Il y a eu cet accord entre Balaguer et Leonel Fernandez et au deuxième tour, et puis il a barré la route à Peña. Et d'autre part, il y a aussi José Serrouillé. José Serrouillé, son intellectuel dominicain, d'ailleurs, qui a dirigé avec Madame Nyon française, Jacqueline Boyne. Il y a dirigé une fondation qui est les sciences et arts. Tous les deux, c'est des économistes. Et au CCU, il était travaillé en Haïti et pendant plusieurs années. Et monsieur est arrivé tout. Et comme ils sont monde d'origine arabe, donc monsieur est arrivé tout et tissé des liens assez forts avec la communauté d'origine arabe en Haïti. Et donc, il y aurait été des références pour Haïti du côté de la République dominicaine.
Alors, et pour nous avancer, nous connaissons que Gayen et Fondation Zile qui a préparé là pour la prochaine semaine de la diaspora en République dominicaine.
En effet, et je remercie qu'on touche maintenant, Raymond, parce que ce sera la 10e édition de la semaine de la diaspora. Donc, ça, nous, que ça a valu la peine, parce que Gayen, des fois, ou lancer ou non démarche ou non activité, non projet. Et pour diverses raisons, le projet n'a pas fait long feu. Et, mais dans ce cas-là, et 10 ans d'un événement qui reste, on dit, l'événement le plus important et en ce qui a trait aux relations haïtiennes-dominicaines, et l'événement le plus important pour la visibilité de la contribution haïtienne en République dominicaine, c'est la semaine de la diaspora. Et son semaine est, qui est faite avec plus de 25 activités dans des villes différentes, bon, beaucoup plus dans les villes à forte présence haïtienne et dans les villes où nous avons présence consulaire ou diplomatique. Et tels que Higüey, Santiago, Darabon, Barahona et bien sûr et la capitale. Donc, nous lançons-nous là. On a eu la première réunion et avec des figures assez importantes dans le plan, sur le plan artistique, culturel, laïque, en personnalité comme James Germain. Et pour le Canada, notre représentant au Canada, Serge Magidi Gilbert, était présent. Donc, nous étions en vingtaine de monde et sous Zoom. Et pour nous capables plus ou moins définir les grandes lignes de cette 10e édition de la Semaine Diaspora, de la Semaine de la Diaspora, qui a fait du 13 au 20 avril 2022. En prélude à cette activité qui a bien lieu en République dominicaine, donc nous pensons à une sorte de gala, une sorte de concert de levée de fonds à Montréal avec, bon, nous pouvons gagner. Nous ne pouvons pas dire OK, nous ne pouvons pas dire autorisation manager, mais nous t'a souhaité. Nous t'a souhaité, et je me permets de citer Noni quand même, nous t'a souhaité que les conversations, les pourparlers avec elle et son manager aient un succès. Donc, c'est une jeune haïtienne qui était vivant en République dominicaine et qui vient de en figure connue. Du monde culturel, artistique au Canada. On a parlé là de Yama Laurent, qu'on connaît très bien.
Ah, c'est la première station de radio qui bat Yama Laurent la parole. Et non
Justement.
seulement ça, l'elle te gagne un concours La Voix, et bien d'interviewer maman depuis Ankaye avec tout
Extraordinaire.
Ozias.
Ah, extraordinaire. Justement, Ozias était dans la réunion. Et
Ah,
donc, c'est
c'est
tout ce beau monde, c'est
mon
tout ce
petit
beau monde.
frère.
D'ailleurs, on y a là, mais tout que samedi midi inter déjà fait partie, c'est notre média officiel. C'est notre média officiel au Canada pour promouvoir cette soirée de levée de fonds et pour la semaine de la diaspora. Donc, ouais, c'est publiquement, tout ça, ils ont quand même dit ça en privé. Donc, même
Mais
déjà qu'on est, comme je suis le correspondant officiel, donc mon média officiel à Montréal, c'est samedi midi.
Alors, en passant, faut que moi dise que Maya Laurent doit yon gros bagay à Ozias, qui yon jeune qui nan culture, qui a promouvoir les artistes et haïtiens à travers la diaspora. Eh bien, je crois que l'État doit gagner en pile reconnaissance pour ça, Ozias fait pour lui.
Non, définitivement. Et Ozias, mon cher, son jeune professionnel de l'entrepreneuriat culturel, l'entrepreneurship culturel, et qui gagne d'excellentes idées, d'ailleurs, et son bail que nous avons partagé publiquement. Et j'ai insisté lors de la réunion qu'il faut rendre ratable la semaine de la diaspora. Nous pas comme chaque année. Et c'est n'a pas collé pièce pour une activité. On va en arriver à faire pendant 10 ans, oui. Mais maintenant que nous avons 10 ans, donc il faut qu'on ait l'autre façon pour nous gérer l'activité. Hein. Et bon, un comité permanent. Et donc, son monde que nous-mêmes nous apprécions en pile au niveau de la Fondation Zilé et Idélio. Et réellement, c'est des idées toujours bien construites et bien pensées.
Alors, pour nous terminer, mon cher frère et ami, je voulais venir sur Kenneth Merten, qui est retourné en Haïti. Nous connaissons l'exil, fait un pile mal à Haïti. Nous connaissons Simone Bill Clinton, Hillary Clinton, et le frère de l'ancienne première dame
connaît moun sa yo pi gout terre qui gen en Haïti, yo pa acheté terre non, mais yo acheté en bas terre. Il faut le dire. Yo fait un pile mal à pays ya. Et très brièvement, nous pa vle parler trop de li parce que nous connaît yo vini avec mandat yo, nous wè deux ambassadeurs quand bien et présenté pour leur expérience, yo démissionné ou façon que yo traité dossier haïtien yo, façon yo voyé yo aller, les recommandations que le fait ou pas coûter, eh bien les deux yo ralé koyo. Très brièvement mon frère, ils sont capables de dire de malheur ça yo voyé encore sous pays d'Haïti.
Thème de rapidement Raymond. Et changer on le et d'ailleurs son ami qui était gain pour l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA et qui gain pour la parler du Venezuela. Et selon les directives reçues, c'est comme d'ailleurs son sorte de vote négatif, son bail négatif. Elle dit si je me place, monsieur, je me tombe dans la ça, parce que je pas qu'à faire Venezuela ça. Si je me place, monsieur, je suis malade, je ne vais pas aller dans l'Assemblée. Et des fois, je pense que faut que conscient de l'imitation que en conjoncture capotée et vers fonction qu'il a occupé. Donc, je ne pas comprendre pour qui ça et l'ambassadeur Kenneth Martin arrive à accepter le fait que c'est supérieur, c'est d'autres instances supérieures, hiérarchiquement supérieures qui m'a dit monsieur aller en Haïti. Mais il connaît l'indiocratie haïtienne, il connaît Jean concevoir et gestion que le t'a fait en Haïti, il connaît que cette nouvelle présence ou mission en Haïti va créer des réactions négatives qui ne seraient pas bonnes pour les bonnes relations que nous devons quand même maintenir avec les États-Unis. Malgré toute réserve et toute critique, ouais, mais justement la diplomatie, c'est de pouvoir et travailler avec l'autre, c'est quand même qu'un bon espace de collaboration, mais tout en défendant les intérêts, les plus gros intérêts de partis qu'on représente. Donc dans ce sens-là, l'interlocution, l'interaction, pas qu'à faire de la façon la plus efficace, et même pour les intérêts des États-Unis. Parce que là, nous déjà attendons des mounes qui ont demandé pour déclarer une personne à non grata et grand pile réaction autour de cette décision. Et donc, nous pouvons connaître exactement et quelle serait maintenant et la position finale du département d'État. Mais avec toutes les antennes que vous avez en Haïti, vous déjà attendez au mou que ça causait en Haïti. Donc, son dossier pour nous suivre, mais comme la majorité des Haïtiens, nous parlons que c'est une décision opportune pour gérer la situation que nous avons actuellement en Haïti.
Cher Mapé, dis vous merci. M'a souhaité vous bon courage pour le travail que vous avez fait. Et je crois que le peuple haïtien comprend que la diaspora représente un support inconditionnel pour le peuple haïtien. Parce que si pas de diaspora, nous t'a demandé qui ça ferait nous yo ce nous yo cap vivre des moments difficiles. Le nous garder pour nous wè gen maman petite tan cap dormi ak petit yo et cal passer journée et m'pa konn sou wè vidéo ça nan cimetière parce que li pa cap voyer petit li l'école, yo obligé al cacher nan cimetière, lè l'école lagué et bien yo retourner la caillou. Et m'a remercier yon compatriote qui sorti pour aider et dame ça pour le cavoyer timoun yo l'école nous dit vive sécurité vive travail que nos collaborateurs collaboratrices a fait sur l'antenne de sécurité l'émission samedi midi inter gen moun qui comprennent et qui sensibiliser n'abdou encore une fois mon frère merci bon courage et longue vie kembe la palagé.
Merci, toujours avec plaisir. Bon week-end à tous.
Oui, bon week-end. C'était Edwin Parizon, l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, l'ancien diplomate en République dominicaine et président exécutif de Fondation Zile. Avant nous aller, faut qu'on dise non, nous recevoir un paquet appel dans une petite erreur que nous fait. Et maintenant des vidéos et nous pas qu'on est Islandoubi tellement en tête moins au lieu me dit un autre nom et puis c'est nom Islandoubi qu'elle sorti dans tête moins. Alors faut qu'on dise non que c'est petit Hermano calé dans un dîner que tu as fait. Eh bien monde qui t'a organisé dîner a mandé sécurité bloquer monsieur. Quelle horreur, quelle horreur. M'espérer que t'entende avec Saint-Yves, il ou pas fâché contre moi, ça montrait l'importance de l'émission. C'est pas deux appels que m'va recevoir. M'a dit mes auditeurs auditrices un grand merci. Vous êtes vraiment très fidèles à votre émission samedi midi inter diffusée sur les ondes de CKUT. Une petite pause et je vous reviens tout de suite.
Tu devrais aller chez Jean Coutu.
Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est la pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon. Nommé meilleur laboratoire de toutes les pharmacies Jean Coutu au Québec. 514-251-0555. Situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacourt. Et n'oubliez pas, nous livrons partout. Pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon, meilleur laboratoire au Québec.
J'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu.
Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
À Digicel, le mois d'octobre se célèbre. Digicel vous propose 8 fois la valeur sur vos recharges vers Haïti. Envoyez 15$ en plus de crédit vers Haïti et vos proches recevront 8 fois la valeur. Plus 8 gigas de données. Rendez-vous chez un agent chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche du mois d'octobre. Oui, envoyez 15$ en plus de recharges vers Haïti et vos proches recevront 8 fois la valeur. Plus 8 gigas de données afin que vous restiez toujours connectés à ceux qui vous sont si chers. Rendez-vous chez un agent Digicel pour envoyer des recharges. Cette offre est valable chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche du mois d'octobre. Termes et conditions applicables.
Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons-vaccins. Un message du gouvernement du Québec.
Moi, j'ai avec moi en ligne un compatriote qui vit un moment triste et difficile. Le vendredi 1er octobre à Rivière-des-Prairies. Le nous regarder comment ils traitent des Haïtiens dans zone et plusieurs zones à Montréal ou à Québec, nous sommes capables de dire que c'est vraiment et triste pour le travail que les policiers ont fait. Et nous avons avec nous M. Jean Gardy. En fait, c'est un homme d'affaires que lié. Côté les vivants événements en présence de ses enfants, sa femme, et en plus, c'est un monde qui est très connu dans Rivière-des-Prairies. Monsieur Jean Gardy, Napédio, bonjour et puis Napédio, bon courage.
Bonjour à tous. J'en profite l'occasion pour saluer tous les auditeurs et aussi la grande générosité de Monsieur Laurent de me donner l'opportunité de partager ce qui m'est arrivé.
Bon, alors, est-ce que vous êtes capable d'expliquer, non, brutalité policière qui a été faite sur vous en présence de petit tout avec madame. Et Dieu soit loué que madame son monde qui connaît comment va fonctionner.
Bon, à vrai dire, moi-même, c'est sûr que dans le quartier, bon, je décris peut-être moi d'abord comme un père de famille, comme un mari, et aussi comme un citoyen dans le quartier, puisque moi, j'habite le quartier depuis, au fait, depuis plus de 30 ans. Donc, vendredi, le 1er octobre 2021, vers 19h30, dans le stationnement de l'Arena René Masson, dans le quartier de Rivière-des-Prairies, après un cours de patinage auquel participaient mes deux enfants de 4 et de 8 ans, accompagnés de leur grand frère de 17 ans ainsi que de leur mère, je suis venu les raccompagner jusqu'à la maison et j'ai embarqué dans le même véhicule que mon beau-fils de 17 ans. Dès que nous sommes entrés dans le véhicule, près de 5 voitures de police ainsi qu'une dizaine de policiers nous ont interceptés. Ils nous ont demandé de sortir du véhicule. Ils nous ont menottés, fouillés à la recherche d'armes et m'ont enfermé dans une voiture de police. Donc, terrorisé, je demandais qu'on prévienne ma femme qui venait à peine de quitter en direction de la maison. Les policiers ont contacté ma femme et elle est revenue dans le stationnement de l'arène où se déroulait l'événement. Une fois arrivée, elle nous a trouvés menottés, prêts à être emmenés. Ma femme a tenté sans succès de leur dire que nous étions d'honnêtes gens et que nous venions tout simplement de récupérer nos enfants à un cours de patinage. Les policiers étaient déterminés, convaincus que nous venions de participer à un vol à main armée. Impuissant et terrorisé, voyant son mari et son fils arrêtés et menottés, elle a supplié les policiers de nous relâcher car nous étions innocents. Donc, elle s'est tout d'un coup mise à filmer. Donc, elle a pris des photos de la scène. Les policiers ont alors dit à ma femme qu'elle entravait une enquête criminelle. C'est ça.
Bon.
Donc, alors, je peux poursuivre?
Oui, on va continuer.
C'est ça. Donc, à ce moment précis, j'ai ressenti une profonde injustice, de l'impuissance, et je me sentais humilié. J'étais traité comme un vulgaire criminel qui semblait déjà condamné sans même être jugé. J'étais surtout terrorisé par ce policier qui se tenait un peu plus loin, les jambes écartées et les mains sur la taille prêtes à dégainer. Dans un moment de désespoir, je demandais à ce qu'on me libère car je n'avais absolument rien fait et que je devais retourner à mon commerce qui n'était situé pas très loin de l'aréna d'ailleurs. Un des policiers a répondu « Où est ton commerce ?» J'ai répondu de ton désabusé que je connais un restaurant au nom de Griot Plus sur le boulevard Maurice-Duplessis. Et c'est alors que j'ai entendu chuchoter un des policiers à un autre de ses collègues, le restaurant Griot Plus n'est-il pas fermé à cette heure ? Ma femme désespérée les a questionnés à savoir la manière cavalière dont ils avaient mené l'intervention. Et un autre policier a répliqué avec vigueur que ma femme ne connaissait rien en matière d'enquête. C'est alors que ma femme a rétorqué qu'elle a siégé sur le comité viginoire au SPVM et que leur méthode d'interpellation était discriminatoire et laissait transparaître du populaire en fait. Enfin, après plus de 3 quarts d'heure, les plus longues de ma vie, n'ayant absolument rien contre nous, et forcé de nous libérer, un des policiers mentionna à ma femme que nous étions au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous avons quitté les lieux totalement désorientés, car cette intervention nous paraissait totalement invraisemblable, injuste, illégale. Je me demande encore, sans la présence de ma femme, que se ferait-il passé ce soir-là. Donc, et d'une manière plus large, quel est le sort réservé aux minorités ethniques habitant le quartier? Car moi, étant bien connu et apprécié pour mon implication, je n'étais de toute évidence pas à l'abri des traitements discriminatoires. J'étais coupable d'une seule chose cette soirée-là, coupable d'avoir la peau noire.
Alors, donc, j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter et parce qu'il y a des gens qui font du bon travail. Et Pearson et Vaval a écrit un petit mot vraiment triste et inconcevable qu'un commerçant qui est un modèle d'engagement social soit victime de ce genre de traitement. Sa dignité et celle de sa famille a été attaquée dans une intervention qui n'a pas été réalisée avec la vigilance nécessaire. Surtout dans le contexte actuel, la communauté s'attend à mieux. Nous devons faire mieux pour protéger notre communauté, ses acteurs et ses enfants. Des pratiques doivent changer et tous les citoyens doivent être respectés. Bravo, et mon cher et Vaval. Alors, est-ce que vous avez d'autres actions à prendre contre le service de la police de Montréal?
Donc, jusqu'à maintenant, une plainte formelle a été déposée auprès de la Commission des droits de la personne. Et nous sommes en train d'évaluer avec notre avocat la possibilité justement de déposer des poursuites au civil. Et entre-temps, j'aimerais aussi informer votre auditoire qu'il va y avoir une marche dimanche à 13h, dimanche le 17 octobre à 13h. Donc le point de départ, c'est une marche pacifique. Donc, le but, c'est de dénoncer le racisme et la discrimination, ainsi que le profilage racial. Donc, c'est vraiment quelque chose de pacifique. Donc, les Haïtiens doivent se dire, ou les communautés racisées doivent se dire, aujourd'hui, c'était moi, mais peut-être que ce sera un membre de leur famille. Faut pas qu'ils se disent que ça ne me concerne pas, ça concerne tous les Noirs, ce qui s'est passé, tous les Présidents. Donc, j'invite tout le monde, s'ils ont la possibilité de venir participer à cette marche qui va se tenir. En fait, le point de départ va être au 9111 Boulevard Maurice Duplessis, devant le restaurant Gris au Plus.
Alors, vous avez choisi un jour historique chez nous, le 17 octobre.
C'est tant mieux.
Très bien. Alors, je vous souhaite du courage, mon cher, et bonne chance. On a vu ce qui arrive à la ville de Repentigny et les choses continuent avec les policiers de Montréal. Alors, c'est le temps de mettre de l'ordre au sein du service de police de Montréal. Alors, je vous remercie encore une fois. C'était Jean Gardy, un homme très connu dans Rivière-des-Prairies, surtout pour le travail qu'il fait. Un vrai modèle. Vous avez quelque chose à dire, très brièvement?
Oh non, moi je voulais juste interpeller les gens à savoir que personne n'est à l'abri, donc il faut vraiment changer les mentalités. Donc, il faut continuer à lutter et aussi dénoncer cette situation.
Merci. Alors, comme je viens de le mentionner, c'était monsieur Jean Gardy, que vous venez d'entendre à l'émission Samedi Midi Inter de Radio CKUT. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens avec d'autres informations.
Merci.
À la prochaine.
Diabla non barrière. Zaka soudo, Ganshime nan kache. Société nan la rue, nous même nous pas nan bêtiso. Ganshime continale, tout droit dans cimetière. Tout vent baron la croix, grand garçon bébé, pour m'sarre les loyaux. Persécution marchait tout genre. Si dès que la caille engagé, voyez parler yo pour moi. Dans la cour, la caille, voici si nous c'est grand monde.
Clément Bizango. Mes amis, ça sont gros causés. Oh, Samuel Aé. Samuel Aé.
Avec moi depuis Haïti, un ophtalmologiste de formation et de longue date. Nous capables de dire c'est au monde et nous pas qu'on ait côté le point courage comme un jeune homme. Il est partout à travers le pays pour faire du bien aux malheureux. Alors c'est avec plaisir que nous allons recevoir un Jacques Mélien dans le sud-est. Et que nous déjà attendons sur les ondes de CKUT, l'émission samedi midi inter. Docteur Lange, c'est avec plaisir que nous recevons dans l'émission samedi midi inter de Radio CKUT à Montréal.
Et c'est avec plaisir tout que ma voix Raymond et me t'arrête profiter pour me féliciter de l'excellent travail que vous faites en faveur de la communauté haïtienne.
Alors, moi-même, je n'ai pas dit que je me non seulement au sous toutes les antennes des radios à travers le pays, et même dans la diaspora, comme c'est le cas pour samedi midi inter de CKUT. Mais c'est travail que vous faites, et non seulement fait travail, dernièrement, moi, côté dans le sud, au CAI, côté que vous distribuez du matériel sanitaire, médicaments. Qu'est-ce que vous avez fait?
Bon, oui, effectivement, bon, ça pour me dire, c'est que à part le fait que je travaille comme ophtalmologue, je suis également le directeur médical de Lions Club pour Haïti. Donc c'est à ce titre, effectivement, que j'étais allé dans le sud en compagnie de William Eliassin, qui est le gouverneur du district. Et non seulement que j'étais travaillé et comme médecin, par exemple, débarrer un petit coup de main à l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane, pour le monde qui connaît l'hôpital Sahara, j'étais fait en clinique dans NIP. Mais également, moi, j'ai fait une clinique et au CAI, dans la salle du royaume, enfin, dans le camp, qui est géré par la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Côté nous, t'es ouais, 120 mounes, que pendant toute la journée du dimanche, et que nous, t'es bayo, mounes qui t'es besoin de lunettes, ou bayo lunettes, ou bayo médicaments, et vraiment, c'était agréable pour me travailler pour mes frères et mes sœurs haïtiens. À part de ça, nous, t'es distribué des tentes, nous, t'es bayo médicaments, et dans plusieurs côtés que nous baillons médicaments. Et il faut me dire qu'avec une grande surprise et un grand plaisir, moi, que contrairement à ça, il s'est dit, moi, que les Haïtiens sont solidaires des Haïtiens. Par exemple, et malgré tous les problèmes, par exemple, au Gonaïve, à Petite-Rivière de l'Antibonite, à Dessalines, à Saint-Michel-de-la-Talaye, à Marmelade, à Des Dunes, enfin, partout que ma fait clinique, me réaliser qu'au moment du séisme, on peut côté des mondes qui n'ont pas gagné, mais le peu que vous gagnez, il a pété, n'est-ce pas, pour y aller dans le sud. Et ceci en dépit de cette terreur qui est réellement tissant, parce que From Joe, m'a pas pour nous que, et m'a tissant, bah, elle n'a pas niel. Même chaque fois, bon, From Joe, tout que par exemple, et en même temps que m'a travaillé dans l'Antibonite, m'a travaillé également dans le sud-est. Et j'assure, et ceci à titre complètement gratuit, hein, je ne touche pas pour ça. Toute clinique m'a fait, on m'a touché 5 hommes pour ça. Ça m'a tenu pour me préciser ça. Au sud-est, par exemple, et j'assure le département d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Michel, et chaque fois qu'on a passé Matissan, on va cacher tout, ce sont des sueurs froides, c'est la prière, bon Dieu, pour le permettre. Bon, juste à présent, on a fait toujours. Et il y a le plaisir pour me dire que non seulement que nous travaillons comme docteur, mais ce n'est pas ça tellement qui est intéressé, nous, que de laisser en permanence. Parce que nous pas éternels et nous t'a aimé que nous pas qu'à dédoubler en plus, nous pas qu'à tout côté en même temps. Et c'est la raison pour laquelle et parallèlement à soins que nous avons fournis, hein, nous avons formé des infirmières au premier soin ophtalmologique. C'est-à-dire que nous avons montré qu'ils ont, par exemple, pour faire un champ visuel, pour faire une photométrie, pour faire ophtalmoscopie, pas aussi bien qu'un ophtalmologue, parce que ce sont quand même de longues études, mais au moins pour être capable de détecter les signes, n'est-ce pas, qui peuvent et faire craindre une grande complication, par exemple un diabète, n'est-ce pas, au niveau ophtalmologique, surtout le glaucome. Vous savez que pour nous, la race noire, c'est une prévalence du glaucome qui est très forte chez nous, n'est-ce pas? Donc, et là, c'est un travail que m'a fait. Par exemple, après-demain, à Saint-Michel-de-la-Talaye, nous avons l'autre volet. Nous avons une rencontre avec une trentaine de directeurs d'école. Saint-Michel-de-la-Talaye sont gros communes, dans la Guadeloupe. C'est le plus en grand nombre de terres agricoles dans le pays. Hein. Et c'est là que nous avons rencontré, et d'après ça, au dimanche, une trentaine de directeurs d'école, côté nous avons essayé parler de projets de dépistage visuel dans les écoles. Alors, son bagage que nous faisons, et dans les écoles, nous formons des mondes pour faire des dépistages visuels. Là, nous demandons un bagage vraiment symbolique, on va faire de 15 gouttes par élève, juste pour être capable et permettre et une sorte de motivation. Et c'est donc ce travail, ça, que la PC fait à travers le pays, à travers, n'est-ce pas, le territoire national, pour apporter notre modeste pierre, n'est-ce pas, à ça qui a passé actuellement, parce que, comme on connaît, bah, il n'est pas facile du tout dans le pays d'Haïti.
Alors, moi, ouais, que vous avez joigné une belle plaque, honneur et mérite pour votre travail, et c'est pas n'importe quelle organisation qui rend nous au Maïsar.
Oui, m'a dit que j'ai reçu une plaque du Lounge Club et international, et bon, avec beaucoup de fierté, m'a dit que c'est la première fois que mon ophtalmologue recevoir plaque ça. Tu vois, et bon, c'est m'accepter avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de fierté, je dois dire la vérité, n'est-ce pas? Et j'y vais compenser vraiment plus le travail que nous fait. Mais ça qui est intéressant surtout, c'est que nous matérialiser tout espoir que y a bien sous nous. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons fait plus et beaucoup plus. C'est-à-dire que chaque côté nous arrivé, c'est comme moi dis, c'est pas uniquement ouais, deux, trois mondes, bah, deux, trois lunettes, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est en même temps former des mondes qui pour nous, essayer d'attirer de jeunes ophtalmologues, et ceci en dépit de tous les problèmes, n'est-ce pas, qu'il y a dans le pays, bah, il n'est pas facile pour eux, grand pile là de pauvre diable. C'est GTO, voulez GTO, parce que nous comprenons tout. Mais essayez malgré tout, garder pour eux s'il y a quelques jeunes confrères, n'est-ce pas, qui t'a cabrité, qui t'a secondé Docteur Lange, parce que Docteur Lange n'a pas qu'à faire tout le bagaille. Vous comprenez? Et comme moi, nous ne sommes pas éternels non plus.
La donc, garder
pour eux s'il n'est pas capable. Absolument. Garder pour eux, même si on était relevé papa, Docteur Thomas Lange, n'est-ce pas. Donc, garder pour eux, n'est-ce pas, à côté que nous sommes capables vraiment de travailler. Et en même temps, et travailler avec le secteur scolaire et au niveau des problèmes visuels dans les écoles, parce que ceci est très, très, très important. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la plus grande cause de retard scolaire, ce sont les problèmes visuels. Malheureusement, on ne prend pas ça tellement en considération. Mais quand même, si aller que gain moun capité nous. Par exemple, il y a Monseigneur Roger Beauvoir, et avec qui d'ailleurs j'ai rendez-vous demain, qui est le directeur de Food for the Poor, et capité nous. Parce que vraiment, ça, ce n'est pas ça, c'est très difficile pour nous, parce que même là, nous-mêmes, nous pas touchés, mais quand même, il y a les lunettes qu'il faut donner, il y a les médicaments, tout ça. Et ça, c'est appréciable. Il y a William Yassin, le gouverneur du district de Lyon, n'est-ce pas? Et puis, il y a deux, trois, et monde de temps en temps. Maintenant, si au niveau de Montréal, n'est-ce pas, on veut nous aider au niveau du Lounge Club, ceci sera vraiment, 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 vraiment très bénéfique. Parce qu'il suffit de très peu. Ça me dit, par exemple, un assistant avec un minimum, au moins sur le grand tonomètre, avec un ophtalmoscope, avec un champ visuel. Bon, champ visuel là, moi, je fais le champ visuel là. Ouais. Au lieu pour ma page, tel bien cher et là-bas, nous faisons. En Haïti, nous faisons ailleurs, on nous montre qui j'ai pu faire.
Alors, docteur Lage, il y a plusieurs médecins américains qui sont venus. Docteur Lage, nous allons terminer, by coordonner, il y a un monde qui t'a aidé, comment que le café. Très rapide, s'il vous plaît.
Bon, avec le plus grand plaisir, vous pouvez appeler le docteur Lage au 37. Alors, il y a le 609, pas vrai, qui est l'indicatif
d'Haïti. Ouais.
C'est le code, absolument. Le 609, donc 37 13 50 81, je le répète. le 509-37-13-50-81, c'est le DICEL. Et j'ai également le NAPCOM, qui est le 509-43-93-25-92. 509-43-93-25-92. Et j'ai une adresse électronique, France Large, c'est en un mot. Et France Large, comme ça s'écrit, en minuscule, FRANTZLARGE, à commercial gmail.com. Donc, moi, sur WhatsApp, et avec plaisir que nous allons rentrer en contact avec nous. Et tout le monde va le faire dans la transparence. C'est par le Lions Club que nous allons le faire. Et nous allons dire exactement, si vous voulez aider nous, qui bagaille qu'on a fait et avec EDSA. Parce que la priorité pour nous, c'est les assistants. Ce sont les infirmières qui restent sur place et nous allons faire au moins ophtalmoscope direct, à autonomètre, autonopène et comme moi, champ visuel, lui-même nous a fait. Et avec ça, on ne peut pas imaginer que nous ne pouvons pas seulement.
Docteur Lange, oui. nous pas gagner pile temps. Alors, avant de nous quitter, nous connaissons nos amis, c'est par le biais de mode de MIU
que
nous
Oui.
On petite salutation en 30 secondes.
Oh, Maud, comment vas-tu? Tu es là?
Non, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute.
Ah, Maud, eh bien, chérie, si tu es à l'écoute, je voudrais te dire tout le plaisir que j'ai eu, n'est-ce pas, avec tous les moments que nous avons passés ensemble et vraiment l'espoir que cette collaboration puisse se consolider. Tu es une grande haïtienne, le travail que tu fais, c'est un travail formidable, un travail merveilleux et j'espère que les rêves que tu nourris pour ton pays puisse se matérialiser un jour avec l'aide du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse aussi Raymond, et que Dieu bénisse tous les auditeurs de ton intéressante station de radio. Et que surtout, que Dieu bénisse Haïti.
Merci Dr. Lange, c'est toujours un plaisir pour me recevoir à l'émission Samedi Midi Inter de Radio CKUT à Montréal. Bonne chance et à la prochaine.
Merci, à vous également. Merci.
D'accord, nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après.
Et sous bout la monde, ou li pio pa j'en dire. Et ou bien l'autre m'a marché. Baby, qui te m'a dit, qui te m'offrit.
Alors, et comme on est en période électorale pour le Grand Montréal, c'est toujours avec plaisir que je reçois un ami de l'émission Samedi Midi Inter, un stratège en communication, Victor Henriquez. Et je te salue, mon cher. Comment ça va?
Ça va bien, mon cher Raymond, toi?
Eh bien, ça va très bien, ça va très bien. Et je dirais un mois et très surchargé, je pourrais dire, avec tout ce qui se passe du côté de notre cher pays Haïti, ainsi que les élections qui s'en viennent pour bientôt et pour le Grand Montréal.
Tout à fait. Puis c'est, on vient de tenter d'élection fédérale, l'élection municipale en même temps, puis on va commencer à parler, à entendre parler d'élection provinciale parce que on a une élection provinciale dans moins d'un an. Par contre, c'est des élections à la TIC au Québec maintenant. Donc, ça va être une année excitante pour les fans de politique. Mais oui, parlons de Montréal. C'est une élection extrêmement serrée en ce moment.
Alors, et comme je disais la semaine dernière, Valérie menait à 2 points, et je dirais, sur l'ancien maire de Montréal. Mais rien n'est gagné d'avance, qu'on pourrait dire.
Non. Il faut le rappeler, au niveau municipal, le taux de participation se situe habituellement entre 40 et 50 dépendant des secteurs. Ce sera les élections municipales, c'est des batailles que l'on gagne aussi par la capacité à sortir le vote. Cette fameuse machine électorale, du côté de Projet Montréal, on est très fort dans les arrondissements du centre de la ville. L'ancienne ville de Montréal de Pierre Bourque est très acquise à Projet Montréal en ce moment. Alors que du côté de Denis Coderre, on fait le plein de votes dans l'est de Montréal, dans l'ouest de Montréal. Donc, la course sera très serrée jusqu'à la fin et ce sera une course de mobilisation. On l'a vu à l'élection fédérale, on a eu un taux de participation qui semblait être très bas, qui finalement, à force d'avoir du vote par la poste et tout ça, a rattrapé les taux habituels. Je m'attends à ce qu'au municipal, on soit à peu près au même niveau. Et chaque vote comptera. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les élections, Raymond. Mais dans ce cas-ci, c'est encore plus vrai. Lorsqu'il y a un point de différence dans un sondage, on est littéralement dans une égalité parfaite.
Ce qui est important, c'est d'encourager les électeurs d'aller voter. Aller voter pour le candidat qui vous attire plus qu'un autre et qui arrive avec des programmes qui vous concernent également.
Exactement. Puis il faut rappeler que l'élection municipale, Raymond, c'est la seule élection où est-ce qu'on vote un peu sous un système républicain, d'une certaine façon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vote pour le maire de Montréal, séparément qu'on vote pour le maire d'un arrondissement, et en plus de ça, on vote également séparément pour un conseiller d'arrondissement dans certains cas, dans le cas des anciennes villes, et un conseiller de ville dans d'autres cas. Il n'y a pas de conseiller d'arrondissement dans l'ancienne ville de Montréal, mais il y en a par exemple à Outremont, Montréal-Nord, Anjou, etc. Donc les gens vont avoir beaucoup de X à mettre sur le bulletin et c'est important à ce moment-là de connaître les candidats des différents partis, mais aussi de comprendre qu'on peut faire des choix très différents d'un secteur ou d'autre. Il y a des secteurs où est-ce que on pourra voter pour Denis Coderre à la mairie et voter pour un maire d'arrondissement de Projet Montréal et pour des conseillers du mouvement Montréal, par exemple. Donc il y a une belle variété dans l'élection municipale. Beaucoup de candidats de différentes origines aussi. On sait qu'il y a beaucoup de gens de la communauté haïtienne qui sont candidats aussi dans cette élection-ci. Je pense que c'est important de le dire. Le municipal se doit d'être un modèle en termes de diversité de candidature. Oui, en termes d'origine et différentes communautés, mais on voit aussi des gens qui représentent toute la diversité de notre société montréalaise. Et je pense que ça, c'est une des grandes forces de la politique municipale.
Une chose que j'aimerais quand même souligner, c'est pour la première fois dans l'histoire du Canada, je dirais du Canada, qu'on a autant de candidats dans deux formations politiques, Victor. Et soit du côté de la mairesse sortante ou bien le candidat Denis Coderre.
Ben, je dirais enfin. Enfin, parce que ça fait longtemps que ça devrait être le cas. Je pense pendant que maintenant, ce qui va être important, et tu le disais tantôt, Raymond, mais c'est que c'est une chose d'avoir des candidats, et l'autre chose importante maintenant, c'est de les faire élire, et c'est de se mobiliser, c'est d'aller voter. Il y a beaucoup de secteurs à Montréal où les gens ne votent pas, où les gens votent moins. On sait que il y a des portions ou des communautés où est-ce que c'est plus compliqué de sortir les gens pour aller voter. Et je pense que s'il y a une chose sur laquelle il faut absolument travailler, c'est ça. c'est cette mobilisation-là, parce que plus on mobilise le vote, plus on est capable de faire élire des candidats qui nous ressemblent, qui ressemblent à la ville qu'on veut bâtir. Et ça, il n'y a pas de secret pour ça, mais c'est le grand pari des deux principaux partis. Et parlons du troisième aussi, Raymond, parce que Ballarama Holness a fait la semaine dernière un nouveau parti, dans le fond, avec Marc-Antoine Desjardins, excusez-moi, qui représentait, Ballarama était à 10%, M. Desjardins était à 6%, ensemble, ils vont faire 15-16%. Mais c'est une nouvelle force vive aussi, elle très représentative, le troisième candidat, qui me semblait très intéressant dans sa campagne. Malheureusement, je pense que cette semaine, il s'est
avec la question de la langue, avec la question de la langue.
Tu vas jamais dans la question de la langue. Montréal est une ville francophone, point. Ballarama Holness a proposé de faire un référendum sur le statut bilingue de Montréal. Je pense pas vraiment que ce soit une bonne idée d'aller là. En réalité, je suis pas mal sûr que c'est une mauvaise idée d'aller là, puis on l'a vu dans les réactions qui ont fusé de toutes parts. Vraiment, c'est une idée qui a été très mal accueillie, Raymond. Et c'est dommage parce que cette troisième voie-là, elle pouvait nous amener des surprises. Ballarama Holness était réputé pour prendre des votes à Denis Coderre dans l'Ouest. Et avec sa nouvelle équipe, on disait aussi qu'il prenait des votes à Valérie Plante dans le centre. Donc, il venait un peu grappiller chez tout le monde. Malheureusement, je pense qu'avec cette idée-là, on risque de le voir retomber un peu plus dans l'oubli parce que les Montréalais ne veulent pas d'un débat linguistique à ce moment-là.
Alors, et des fois, on veut être arrogant, mais il faut savoir où est-ce qu'on veut y aller.
La politique, c'est l'art de comprendre son rôle et de savoir de quoi les gens sont prêts à discuter ou pas. C'est un art. Denis Coderre l'a appris à ses dépens à la dernière élection. On va se le dire, Raymond, tu sais comme moi à quel point ça a été difficile. Les gens ont trouvé que Denis Coderre était arrogant. Il a besoin de retrouver cet attachement, ce lien avec les Montréalais. Mais en général, lorsqu'on n'écoute pas le peuple nous le fait payer, et ça, c'est dans toutes les élections.
Alors, et c'est quand même important pour les gens qui nous écoutent, eh bien, le jour d'élection, d'aller voter pour le candidat ou les candidats de votre choix. Il y a des candidats qui se présentent comme conseiller municipal, maire d'arrondissement et maire également de la ville de Montréal. Alors, c'est à vous de faire votre choix. Et pour la mairie, soit l'ancienne mairesse ou bien l'autre candidat adversaire de la mairesse, et c'est votre décision personnelle. Personne ne peut vous dire qui voter.
Non, tout à fait. Nous, ce qu'on a à dire, c'est de voter et c'est d'inviter les gens, je te dirais, à suivre cette élection. On a une élection extrêmement intéressante. Denis Coderre arrive avec beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de projets sur la table. Valérie Plante également. On est vraiment en train de voir une élection où est-ce qu'on a deux candidats qui voient la ville très différemment. Hein. Du côté de Denis Coderre, on croit à la ville dans son aspect métropole beaucoup. On veut mettre en valeur ce côté métropole tout en gardant des services de proximité qui sont de qualité. Du côté de Valérie Plante, on planche peut-être moins sur cet aspect métropole, mais on est vraiment dans les investissements qui vont permettre de créer un modèle de mobilité durable, un modèle de ville intelligente, de villes innovantes. Donc, il y a beaucoup de propositions. Ça peut paraître un peu technique, mais je pense que c'est important, c'est intéressant d'ouvrir nos oreilles à cette élection municipale. Les villes sont de plus en plus importantes dans nos sociétés, Raymond, dans la lutte au changement climatique, dans les questions fiscales et d'économie, développement économique. Les villes sont essentielles. On le voit, par exemple, avec Paris, où est-ce que la mairesse Hidalgo est une des candidates qui se profile pour la présidence française. Alors, les villes, en ayant cette importance-là, ben, ça amène aussi l'importance d'avoir des maires et des mairesses qui ont une vision de la ville à long terme.
Et surtout, ils croient dans une métropole internationale. Ça, c'est son domaine.
Oui, tout à fait. Ils croient à cette métropole internationale. Il est capable de la représenter aussi au niveau international. Denis Coderre a des liens partout. Il l'a dit à plusieurs reprises dans la campagne. C'est important qui tu connais et Denis Coderre connaît beaucoup de monde. Maintenant, en même temps, les Montréalais veulent un maire qui s'occupe d'eux avant tout. Et ça, là-dessus, Valérie Plante a toujours fait campagne là-dessus. Elle l'a fait la dernière fois, elle le fait encore à ce moment-ci. Alors, c'est là le grand défi pour Denis Coderre, c'est de montrer que son ambition internationale, son ambition métropole, son ambition de notoriété et de visibilité à travers le monde pour Montréal ne va pas à l'encontre de la volonté des Montréalais d'avoir des services de proximité. C'est pour ça que je m'attends à un conseil assez divisé quand même le soir du vote.
Alors, c'est aux électeurs et électrices de faire leur choix, soit Denis Coderre ou Mme Valérie Plante. Merci encore une fois, et Victor, pour ta participation à cette émission samedi midi Inter.
Merci à toi, Raymond, et bon samedi à tous, à tous les auditeurs et les auditrices.
Alors, c'était Victor Henriquez, un stratège en communication. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens avec d'autres invités.
Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
À Digicel, le mois d'octobre se célèbre. Digicel vous propose 8 fois la valeur sur vos recharges vers Haïti. Envoyez $15 en plus de crédit vers Haïti et vos proches recevront 8 fois la valeur, plus 8 gigas de données. Rendez-vous chez un agent chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche du mois d'octobre. Oui, envoyez $15 en plus de recharges vers Haïti et vos proches recevront 8 fois la valeur, plus 8 gigas de données, afin que vous restiez toujours connectés à ceux qui vous sont si chers. Rendez-vous chez un agent Digicel pour envoyer des recharges. Cette offre est valable chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche du mois d'octobre. Termes et conditions applicables.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir le candidat à la mairie de Montréal, le chef du parti Ensemble à Montréal, M. Denis Coderre, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur les zones de CKUT, l'émission samedi midi Inter.
C'est toujours un plaisir, Raymond. Ça va bien, ça que passe.
Naboulé. Et comment ça va de votre côté?
Ah, c'est petit, mais ça va. Non, ça va bien. Honnêtement, ça va très bien. On rencontre les gens. Je suis toujours sur le terrain. Mes amis chauffeurs de taxi sont toujours là. Et puis mes meilleurs ambassadeurs. Alors, on va voir les gens de la communauté. On rencontre les communautés. Et puis, on sent un beau vent de changement, là. Les gens veulent que Montréal se retrouve.
Comment ça s'annonce, votre campagne, à M. Coderre?
Bien, comparativement à 2017, je vais vous dire que ça va très, très bien. C'est qu'on a une équipe formidable, on a une équipe qui a de la belle diversité, on parle de parité homme-femme. On a des gens qui, pour la première fois, se présentent suite à la pandémie parce qu'ils veulent redonner au suivant. C'est comme si on était à la croisée des chemins. On ne prépare pas juste la prochaine élection, on prépare la prochaine génération. Et puis, beaucoup de gens se sentent laissés pour compte. Et c'est pour ça que le vivre ensemble qui nous caractérise, c'est une des raisons pourquoi que j'ai décidé de revenir. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans un Montréal pour tous les Montréalais et toutes les Montréalaises. Donc, il y a des problèmes de sécurité, des groupes, des problèmes de violence. Alors, j'ai voulu reprendre la capacité de redevenir maire. Évidemment, ça se mérite, hein? On ne prend rien pour acquis. Mais je sens là qu'il y a vraiment un bel enthousiasme sur le terrain.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites au dernier